Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Elle aura des phares en forme de dents de lion.
Des dents de lion ? Cette voiture volera ?
Pourquoi faire ?
Et vous, la voiture du futur, vous l'imaginez comment ? Façon taxi volant dans le cinquième élément de Luc Besson ou concept car Audi RSQ dans le film iRobot avec Will Smith ?
Hell no !
You are experiencing a car accident.
The hell I am !
Façon Lexus autonome de Tom Cruise dans Minority Report.
Revised destination office.
Lamar, they found me.
Ou façon Arnold Schwarzenegger qui dans Total Recall reprend le contrôle de son taxi pour échapper à ses poursuivants.
Drive!
Would you please repeat
the destination?
Oh, anywhere, just go! Go!
Please state a street and number.
Shit!
I'm not familiar with that address. Would you please repeat that?
À moins que, comme Willy, vous ne vous rêviez dans la peau de l'ancêtre Kit dans K2000.
En route, Kit.
Je suis prêt.
Quel que soit votre rêve, l'avenir de la voiture sera autonome. Elle ne sera bientôt plus réservée aux films de science-fiction. Mais comme le dit si bien Johnny le Taxi à Arnold, ce n'est pas une raison pour ne pas boucler votre ceinture.
Fasten your seatbelt.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va monter à bord de Waymo, la société qui veut révolutionner la conduite automobile.
Say hello to Waymo, the world's most experienced driver.
11 millions de yens, soit environ 85 000 euros. C'est le prix au Japon de la Honda Legend hybride EX. Mais qu'a-t-elle de particulier ? C'est tout simplement le premier véhicule grand public commercialisé dans le monde et ayant la capacité de conduire seul dans les embouteillages. Une voiture autonome de niveau 3, un modèle qui permet de consulter ses messages au volant sans risque pour les autres. Honda a pris une petite avance sur la concurrence. Ailleurs aux États-Unis, c'est une autre entreprise qui intéresse les investisseurs. Elle s'appelle Waymo. C'est une filiale de Google et il y a un an, alors que le Covid menaçait déjà le monde, l'entreprise était parvenue à lever plus de 2,25 milliards auprès de nombreux investisseurs. Un signe de foi. Waymo n'a pas eu besoin de se tourner vers son principal actionnaire, la maison mère de Google, pour financer sa technologie de conduite autonome. La start-up californienne prévoit en effet de conquérir le monde avec ses voitures sans conducteur. Et je le disais, ce n'est pas de la science-fiction. Les premières voitures de Waymo roulent déjà. Du moins, elles sont testées en conditions réelles depuis un an en Arizona, avec parfois comme passager un célèbre joueur de football américain qui peut téléphoner en voiture sans mettre personne en danger.
Yeah, this is so crazy. I feel so out of control right now. Yeah, there's nobody driving and there's somebody in the back seat and he's talking on the phone so comfortably. Like that's something's not right with this picture.
Bonjour Anne Fetz.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste de l'automobile. Vous êtes monté, vous, à bord d'une voiture Waymo il y a quelques mois. C'était comment ?
C'était assez bluffant, je dois dire. Donc, ce sont des minivans, en fait, de la marque Chrysler hybride, qui ressemblent à des voitures tout à fait banales. La seule différence, c'est qu'il y a sur le toit une espèce de protubérance noire, où en fait, il y a toutes les caméras et les capteurs de la voiture. Donc, on monte dedans et puis, elle se met en route toute seule, elle tourne toute seule, elle met son clignotant toute seule, elle vous emmène à destination. Donc là, il y avait quelqu'un au volant, mais qui n'a pas touché le volant de toute la course. Donc, c'était quand même assez surprenant et bluffant.
C'est-à-dire que
Vous êtes installé derrière, il y avait quelqu'un effectivement. C'est la personne devant qui était, c'était pour des questions d'assurance, j'imagine ?
Alors, c'est plus pour des questions d'assurance maintenant. C'est-à-dire qu'en Arizona, il y a une réglementation qui autorise les voitures sans conducteur et sans chauffeur de sécurité. Là, il se trouve qu'il y avait un chauffeur de sécurité. L'objectif, c'est pouvoir reprendre la main s'il y a un problème. Mais en l'occurrence, Waymo, dans cette partie de l'Arizona, a mis déjà en œuvre des services sans conducteur de sécurité au volant. Donc, il y a des voitures qui se promènent maintenant dans cette zone sans personne au volant, avec juste le passager à l'arrière. Donc, c'est assez surprenant. Moi, j'en ai pas vu, je dois dire, mais c'est assez surprenant. On racontait des gens locaux quand ils en voient passer.
C'est pas la première fois que vous montiez à bord d'un véhicule autonome. Est-ce que la technologie progresse ?
Alors, je sais pas si la technologie progresse ou si c'est Waymo qui est très en avance. Je crois que c'est Waymo qui est très en avance, même si globalement, forcément, la technologie progresse. J'étais déjà montée dans une voiture autonome avec Valeo dans Paris, et puis avec Renault sur l'autoroute de l'Ouest, sur une petite portion, et à chaque fois, le conducteur de sécurité avait dû reprendre la main pour une raison ou pour une autre. Une fois, il y avait eu un bug, une autre fois, il y avait une voiture qui nous avait fait une queue de poisson, donc peut-être que la voiture aurait bien réagi, mais le chauffeur de sécurité n'a pas souhaité prendre le risque. Alors que là, avec Waymo, jamais, pas une seule fois, la dame qui était derrière le volant, mais avec ses mains sur les cuisses, n'a repris le volant, n'a eu besoin de faire la moindre manœuvre. Elle était attentive, mais on la sentait très décontractée.
Alors vous parliez d'une protubérance sur le toit de la voiture, là où il y a les capteurs, l'électronique. Justement, comment ça fonctionne ? Comment c'est possible une voiture sans conducteur ?
Alors, c'est une voiture qui est truffée de caméras, de radars. Donc, dans celle que j'ai prise, là, les Chrysler Pacifica de Waymo en Arizona, il y a très exactement 19 caméras, 6 radars, 3 lidars. Les lidars, ce sont des radars par laser, donc qui regardent un peu ce qui se passe par laser. Et après, il y a de l'intelligence artificielle qui mouline tout ça et qui fait réagir la voiture en fonction de ce qu'elle a vu et de ce qu'on lui a programmé.
En fait, c'est une voiture qui a des yeux de tous les côtés, c'est ça ?
C'est ça, des yeux et puis des... Pas seulement des yeux d'ailleurs, aussi des capteurs sensoriels.
Elle écoute tout, quoi, en fait, c'est ça ? Elle regarde, elle écoute.
Oui, elle est programmée pour voir vraiment tout ce qui se passe autour d'elle, pour même anticiper les dangers potentiels.
On va dire qu'elle a presque 5 sens, hein, parce qu'on va espérer qu'elle n'ait pas le toucher et qu'elle s'arrête avant, effectivement. Alors, vous le disiez, Anne, la société californienne a commencé à mettre son plan à exécution avec cette société de robotaxi à Chandler, en Arizona. Est-ce que l'expérience est concluante ?
L'expérience commence à devenir de plus en plus concluante parce que c'est la première fois au monde qu'une société met en œuvre un service commercial de robotaxi. Donc, Waymo a commencé par des tests en 2016, donc avec des chauffeurs de sécurité, etc. En décembre 2017, ils ont commencé à tester ça avec du public. Alors, au départ, c'était des bêta-testeurs, donc vraiment des gens choisis, triés sur le volet pour utiliser le service comme d'un taxi, enfin plutôt d'un VTC, pour être plus précise. Et puis, en décembre 2018, ils ont introduit un service commercial. Donc, comme on commande son Uber, eh ben maintenant, on peut commander dans la région son Waymo. Ça s'appelle Waymo One, le service. Donc là, aujourd'hui, ils disent que ça marche très bien. Ils ont 1500 utilisateurs réguliers de leur service de voiture autonome. Une flotte... Alors, au total, Waymo dit qu'ils ont une flotte de 600 véhicules, mais ils disent pas combien ils en ont qui fonctionnent avec le service commercial, mais je pense que c'est la grande majorité, donc, je sais pas, plusieurs centaines. Et donc, tout ça se passe dans la banlieue de Phoenix, sur une zone qui est grande comme deux fois la surface de Paris. Donc, c'est quand même pas rien.
Pourquoi l'Arizona, d'ailleurs ?
Alors, c'est assez spécifique et pour l'instant, c'est une des régions où ça peut marcher le mieux. Alors, déjà, il y a la réglementation. Il y a plusieurs États aux États-Unis qui ont autorisé les voitures autonomes. Et donc, l'Arizona en fait partie. Après, il y a le tracé de la ville, qui est assez simple, finalement. Ce sont des grandes rues très larges. Enfin, moi, ça m'a frappé par rapport aux expériences que j'avais eues avant. Vraiment, c'est à chaque fois 4 voies, quand on veut tourner à gauche, ce qui est quand même la configuration la plus compliquée. Souvent, il y a des feux. Donc, c'est assez facile. J'ai vu très peu de piétons. Moi, pendant les courses que j'ai faites, j'ai vu très peu de piétons, très peu de vélos, enfin, très peu de dangers potentiels. Et puis, il y a une autre raison, c'est la météo, parce qu'il fait quand même assez souvent beau. Et donc, ce qu'on m'a raconté, enfin, j'ai parlé aussi à des utilisateurs du service, c'est qu'il y a assez souvent des tempêtes de sable ou des orages, et que dans ces cas-là, les voitures ne fonctionnent pas en mode autonome. Le chauffeur de sécurité reprend le contrôle s'il y a une tempête de sable ou si il se met à pleuvoir très très fort.
Oui, puisqu'on a pu le voir dans une voiture qui a des capteurs. On a beaucoup de capteurs déjà dans les voitures, notamment pour éviter les frottements ou les choses comme ça. Quand il pleut, et qu'il y a de l'eau qui coule sur le capteur, effectivement, ça nuit un peu à son utilité,
oui.
On va dire.
Il y en a qui mettent des petits essuie-glaces, non pas encore, mais Mais c'est vrai que c'est pas forcément encore tout à fait au point dans toutes les conditions. Mais Waymo commence à tester un peu d'autres conditions météo. Donc, ils ont des tests dans d'autres villes, et notamment des villes où il y a de la neige, des villes où il pleut. Alors, encore avec des chauffeurs de sécurité.
Il y a eu des accidents ?
Alors, ils disent qu'il y a eu zéro accident causé par le robot taxi. En revanche, il y a eu dans la région une douzaine d'accrochages sans blessés graves, toutes causées par d'autres voitures donc, qui sont rentrées dans des robots taxis de Waymo. Mais chaque fois, c'était la faute de l'autre partie.
Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce système ? J'imagine que ce ne sont pas des taxis un peu en maraude ou qui tournent dans la rue. C'est un peu comme un Uber. On a une application, c'est ça ?
C'est exactement comme un Uber. Il y a une application et on appelle son taxi, on rentre l'adresse, il vous répond que la voiture va arriver dans X minutes, il vous affiche un prix. Moi, les courses que j'ai fait, deux courses de 10 minutes, c'était le prix, c'était équivalent à celui d'un Uber ou d'un Lyft là-bas, c'est-à-dire l'équivalent de 7 euros pour une dizaine de minutes. Donc, c'est vraiment très fluide comme Uber.
Alors visiblement, vous racontez ça dans votre enquête pour Les Échos, la police n'a pas été facile à convaincre. Hein.
Alors, ils n'étaient pas fermés, mais ils avaient plein de questions. Ils se demandaient, alors déjà, toutes les questions concernant la sécurité, mais aussi les questions concernant l'assurance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident ? Quel est le protocole à mettre en place ? Donc, ils ont beaucoup travaillé en amont du service, avec la police, aussi avec les pompiers, pour mettre en place des protocoles précis. Voilà ce qui se passe s'il y a une voiture sans chauffeur qui a un accident, voilà ce qu'on doit faire, etc. Donc, après, ils n'étaient pas fermé. Moi, j'ai rencontré le chef de la police sur place. Il était plutôt ouvert parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était les voitures autonomes vont causer moins d'accidents finalement, puisque on sait bien que la majorité des accidents, c'est souvent des erreurs humaines. Donc là, il dit, si ça permet de causer moins d'accidents, nous, on sera quand même contents. Donc, il était favorable à la mise en œuvre de voitures autonomes, à condition qu'on ait bien prévu tous les cas et que la chaîne de responsabilité soit bien décrite. En l'occurrence, là, c'est Waymo qui sera responsable si ils ont un accident responsable avec un robot taxi.
Oui, c'est pas le passager arrière qui sera responsable. Hein. Il y avait des réticences aussi de la part des habitants de Chandler ?
Alors, moi, j'ai pas fait une enquête, hein, mais les gens à qui j'ai parlé, soit étaient pas très au courant, soit étaient plutôt positifs. Ce que m'a dit le maire que j'ai interrogé à ce sujet, c'est que c'est une zone où les gens sont très technophiles. Donc, il y a pas mal d'entreprises de microprocesseurs. Il y a Intel, il y a une entreprise qui s'appelle NXP qui fait aussi des microprocesseurs. Donc, ils ont plutôt accueilli ça avec bienveillance et curiosité. Et s'il y avait des critiques, ce qu'ils disent, c'est plutôt sur la lenteur. Parce que ces voitures-là, elles respectent le code de la route à la lettre. Donc, ça exaspère un peu les gens qui aimeraient bien qu'on force le passage à un piéton. S'il y a eu des critiques à l'égard des taxis Waymo, c'était plutôt ça, quoi. C'était plutôt, ils nous embêtent, ils vont pas assez vite, ils respectent trop le code de la route.
Oui, c'est vrai qu'on a pu voir d'ailleurs des vidéos hein, sur Internet de journalistes qui ont suivi, qui sont amusés à suivre dans leur voiture des taxis Waymo pour voir comment ça fonctionnait. Et effectivement, on pouvait voir souvent la voiture qui hésitait parfois sans changer de fil pour se mettre juste derrière un camion parce qu'il fallait respecter les distances de sécurité, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, c'est plutôt conseillé par le code de la route. Alors, pour qu'on comprenne bien, Waymo aujourd'hui, on le voit, c'est la société la plus avancée sur la route de la voiture autonome.
Alors, c'est ce qu'on dit, c'est un domaine assez secret. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, hein, les constructeurs, les équipementiers ou les sociétés comme Waymo, donc qui est une filiale de Google qui veut développer un peu les services autour de ça. Ce qu'ils disent en tout cas, c'est qu'ils ont déjà 32 millions de kilomètres de tests sur route ouverte hein, et 10 milliards sur simulateur. Donc, ça paraît énorme et donc les analystes ou les experts qui ont un peu fait des comparaisons disent qu'ils sont très loin devant tout le monde.
Alors Anne, pour qu'on comprenne bien, Waymo n'a pas l'intention de construire des voitures.
Non, son modèle, c'est plus le service autour de ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des voitures à des constructeurs. Donc là, pour le service que moi j'ai vu, c'est des voitures de Chrysler, les Pacifica, des minivans. Ils en ont commandé 62 000. Ils ont aussi commandé des Jaguar I-PACE, c'est la voiture électrique de Jaguar. Donc là aussi, ils en ont commandé des milliers. Donc, le modèle, c'est vraiment les courses de robotaxi. L'objectif, c'est de permettre d'économiser le salaire du chauffeur, de faire rouler la voiture 24 heures sur 24. Donc, ils espèrent que ce sera un modèle rentable. Et ils espèrent aussi pouvoir vendre leur technologie sous licence.
Vous y êtes donc dans les services. Ils ont d'ailleurs commencé aussi à tester des camions autonomes, c'est ça, sur des autoroutes du Nouveau-Mexique et du Texas ?
Oui, alors ça, c'est une expérience qu'ils ont commencé. Hein. Ils veulent diversifier les activités, c'est-à-dire ne pas se cantonner au robotaxi. Donc, ils veulent pouvoir proposer des services de transport routier. On dit qu'on manque de chauffeurs routiers aux États-Unis et ils seraient aussi en train de tester, de mettre au point un service de livraison.
On le disait tout à l'heure, Waymo a levé plus de 2 milliards de dollars auprès de gros investisseurs pour financer sa recherche et développement et son expansion internationale. La voiture autonome, c'est un gouffre financier ?
Alors, on ne sait pas très bien combien ils ont investi, hein, ni combien chacun investit. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des milliards de dollars ou d'euros qui sont investis dans ces domaines-là, et pour l'instant, qui ne rapportent rien, puisque le premier service commercial de Waymo, ça doit lui rapporter quelques clopinettes, mais ce n'est pas ça qui va rentabiliser les milliards investis à court terme.
On a pensé à un moment d'ailleurs que Google pourrait jeter l'éponge, cette levée de fonds auquel le groupe a quand même participé, prouve qu'il y croit toujours ?
Oui, il y croit toujours. On ne sait pas très bien quand la voiture autonome va débarquer sur les routes, mais dans le domaine des services, donc tout ce qui est robotaxi, etc., on dit que c'est par là que ça va arriver en premier. Donc, après avoir investi des milliards, il va continuer à investir dans les robotaxis, peut-être dans d'autres services autour de ça. Les constructeurs, en revanche, ont un peu levé le pied parce que on verra pas une voiture autonome, en tout cas totalement autonome, pouvoir être achetée par un particulier. Les systèmes en jeu sont très très chers encore. Et donc, ce que disait par exemple le patron de PSA, pour se payer une voiture de ce niveau-là, enfin qui soit vraiment autonome, ça reviendrait moins cher de se payer un chauffeur. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'avenir vraiment à un horizon de moyen terme pour les voitures autonomes pour les particuliers.
Je voudrais juste une dernière question. Je voudrais revenir sur cette expérience. Donc, quand vous êtes monté dans la voiture, pendant qu'elle roulait, vous faisiez quoi ? Est-ce que vous étiez en train de regarder ce que faisait le conducteur ou vous vous intéressiez au paysage ?
Un peu les deux, c'est-à-dire qu'au début, on est un petit peu effrayé, on se demande ce qui va se passer, etc. Donc, on est très attentif à ce qui se passe. Alors, en face du siège, il y a un écran qui montre avec des petits carrés, les autres véhicules ou tout ce qui se passe autour de la voiture. Donc, on regarde ça, on regarde un peu ce qui se passe avec la voiture, où elle va. Puis au bout d'un moment, c'est un peu comme si on était dans un taxi normal. Donc, on peut regarder son téléphone, on se détend et puis on va qu'à ses occupations. Et ce que raconte Waymo, c'est que maintenant, les passagers font plus vraiment attention au fait que la voiture soit conduite toute seule.
Voilà, on n'est même pas obligé de discuter avec le chauffeur.
Et voilà. Alors, il y en a qui le regrettent, mais quand on a des choses à faire ou quand on n'est pas très bavard, ça peut être aussi un avantage.
Depuis le voyage d'Anne à Phoenix, Waymo a continué d'enquiller les kilomètres. Le 17 février dernier, Google a lancé son service de robotaxi dans les rues plus complexes de San Francisco. Lors de cette phase de test, ils ne seront utilisables que par des employés volontaires de l'entreprise. On le voit, l'automobile autonome avance à petits pas, mais sans le frein à main. Pour autant, le marché est-il prêt à passer à la vitesse supérieure ? J'ai posé la question à Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens.
Alors, il passe à la vitesse supérieure, mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt à aboutir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Waymo fait partie des entreprises et l'entreprise qui est la mieux avancée dans cette extraordinaire course technologique qui se mène partout dans le monde. C'est dans leur livre « Un robot dans ma voiture », Erwan Tison, notamment, et Guillaume Tatouex ont calculé que la voiture de Google, donc de Waymo, hein, puisque Waymo, c'est Google, se désengage 10 000 fois moins que celle d'Apple, par exemple, dans les essais qui ont lieu. Se désengage, c'est-à-dire le moment où l'humain est obligé de reprendre le contrôle sur la voiture. Ça veut donc dire que c'est eux qui sont les plus en pointe aujourd'hui dans cette technologie et ceux qui vont être peut-être le plus près du but, mais ça ne veut pas dire qu'on y est encore.
En 2016, vous écriviez dans une tribune que la voiture autonome allait changer nos sociétés. 5 ans après, vous en êtes toujours convaincu ?
Oui, j'en suis convaincu, sauf que j'ai fait le constat, comme beaucoup d'autres, que ça va être probablement plus long qu'on ne le pensait, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. Alors, les conséquences civilisationnelles énormes, économiques, sociétales, qu'auront des voitures de niveau 5, c'est-à-dire entièrement autonomes, elles sont toujours les mêmes qu'on peut avoir avant, c'est-à-dire probablement des territoires qui vont pouvoir vivre différemment, une mobilité complètement repensée, une façon de travailler, de se déplacer, d'être en relation qui va être différente. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'on a constaté que le problème était beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. On va plutôt assister à une montée petit à petit de formes d'autonomie. Donc, on sera plutôt évidemment dans du modèle 3, hein, c'est ce qui est en train train de se lancer au Japon, c'est-à-dire par exemple modèle 3, enfin le niveau 3, hein, c'est de conduire dans les embouteillages, la voiture conduit à votre place dans les embouteillages jusqu'à 50-60 km/h. Pour le niveau 4, c'est-à-dire certaines portions, ça va commencer à monter petit à petit. Et le niveau 5, où vous faites plus rien, vous pouvez faire complètement autre chose, là, ça va être beaucoup, beaucoup plus long.
Ça veut dire qu'il existe beaucoup de freins, notamment psychologiques ?
Alors, il y a plein de freins. D'abord, il y a un frein technologique. C'est-à-dire que pour pouvoir assurer une voiture de niveau 5, il faut que vous soyez précis au centimètre, hein, si ce n'est au millimètre. Donc, il faut des équipements, il faut une sécurité qui soit extraordinaire parce que, évidemment, le souci de tous les constructeurs, le souci des pouvoirs publics, c'est de garantir à la fois l'innovation et la sécurité. On ne pourrait pas accepter qu'il y ait beaucoup d'accidents. Théoriquement, la voiture autonome, elle sera à terme à zéro accident. Une voiture parfaitement, un trafic qui va parfaitement être régulé, contrôlé par ordinateur, à tel point qu'on peut imaginer probablement qu'un jour, on interdise aux gens même de conduire parce que ce serait trop dangereux, les gens sont faillibles. Mais on n'en est pas du tout là. Et donc, il y a déjà ce problème technologique. Et puis, on a effectivement un problème d'acceptabilité. C'est intéressant d'ailleurs de voir que les pays européens, mettons de façon générale l'Occident, est beaucoup moins ouvert, ils sont beaucoup moins ouverts à ces nouvelles technologies. Les gens se disent plus réticents, donc il va falloir plus de temps pour les convertir que les pays d'Asie de l'Est, qui sont très ouverts, la Corée du Sud, la Chine, et d'ailleurs ils ont annoncé des objectifs assez volontaristes en matière de progression. En 2030, la Chine, elle dit que 10% de leurs voitures, des voitures vendues, devraient être de niveau 4 ou 5, vous voyez, dans 9 ans. Donc c'est quand même assez ambitieux. Et puis peut-être le dernier frein, c'est un frein réglementaire, justement. Les pouvoirs publics se posent vraiment la question de la façon dont on va pouvoir faire adapter les réglementations pour rendre possible cette innovation, mais tout en permettant la sécurité. L'ONU vient tout récemment d'adopter un règlement qui va pouvoir permettre une marche vers cette adoption, mais l'Europe n'a pas encore vraiment donné date pour, elle, transcrire cette nouvelle réglementation. C'est le Japon qui vient de le faire, c'est la grande nouveauté, c'est Honda qui, pour la première fois, c'est tout récent, a l'autorisation de faire fonctionner une voiture de niveau 3 sur son sol. Audi voulait faire la même chose, mais ils n'ont pas eu l'autorisation en Europe.
Le problème de quand on parle de problème de réglementation, c'est aussi le problème de l'assurance ?
Oui, c'est évidemment le problème de l'assurance. On comprend bien que jusque-là, c'est simple, sauf problème technique, c'est le conducteur qui est responsable. Bon, demain, quand vous ne conduisez plus, qui est responsable ? Est-ce que ça va être le constructeur, qui va d'ailleurs peut-être probablement n'être plus de plus en plus qu'un assembleur, une très grosse partie de la valeur ajoutée de la voiture, elle sera dans l'électronique. Donc, est-ce que c'est le fournisseur d'intelligence artificielle ? Est-ce que ça sera aussi, pourquoi pas, l'équipementier qui va fournir les capteurs ? Ça dépendra de la cause de l'accident. Et puis, est-ce que c'est aussi le propriétaire ? Est-ce que ça sera d'ailleurs le loueur de flotte ? Parce que de plus en plus, celui qui sera dans la voiture sera juste un locataire qui va à un moment donné, dans une flotte, louer une place comme dans un taxi, mais ça sera plus le propriétaire. Et donc, évidemment, il y a une évolution à faire de la réglementation et la question de l'assurance est absolument centrale.
Waymo a d'ailleurs procédé à des simulations d'accidents graves afin d'essayer de prouver que son IA était meilleur conducteur qu'un humain, fût-il Fangio ou Sébastien Loeb. Et selon ses études, son intelligence artificielle aurait évité 100% des accidents quand elle est dans le rôle de l'initiatrice de l'accident et on tombe à 82% quand elle est dans celui qui subit les événements. Alors au-delà de Waymo ou Uber, on sait que Tesla, General Motors, Honda, on le disait, BMW ou Nissan s'intéressent à ce segment. En France, c'est l'équipementier Valeo qui est à la pointe avec ses capteurs.
Ça y est, on va passer en mode autonome, la voiture a sa mission. Donc c'est bon, là elle est partie, j'ai lâché les pédales et le volant. Et puis on s'arrête doucement derrière la voiture de devant en gardant une distance de sécurité correcte.
Donc là, le volant bouge tout seul, ce qui est complètement normal.
En septembre 2018, on vient de l'entendre, un journaliste d'RTL avait pu embarquer à bord d'une voiture autonome équipée par Valeo. En France, toujours, Renault et Peugeot ont aussi des projets dans les cartons. C'est un virage, une révolution qu'il ne faut surtout pas rater en France, Olivier Babeau, dans les 10 ans qui viennent ?
Évidemment, d'abord parce qu'on en a raté énormément, et surtout sur l'intelligence artificielle jusque-là, peut-être aussi sur les biotech, on est en train de s'en rendre compte avec les vaccins. Donc c'est un des virages essentiels, c'est très très bien que des entreprises françaises soient présentes. On pourrait parler de Navia aussi avec ses navettes autonomes. Mais on a des innovateurs en France. On a des groupes qui sont lancés dessus. La seule petite inquiétude, c'est que le vrai ticket d'entrée sur ce marché, il est probablement extrêmement élevé. On peut l'évaluer à 60 milliards d'euros environ. Hein. C'est-à-dire qu'il faut un ticket de R&D énorme. Il va falloir que ces entreprises sachent s'allier, sachent créer des alliances pour arriver à développer des produits qui feront partie des produits qui vont être demain dans nos voitures autonomes. C'est un enjeu extraordinaire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va capter une partie de la valeur ajoutée de la voiture. Et pour éviter que nos voituriers d'aujourd'hui, hein, nos constructeurs automobiles deviennent demain des simples assembleurs de voitures dont une grande partie de la valeur ajoutée va leur échapper, parce que ça sera dans l'électronique, ils doivent être capables de fournir en partie cette technologie. Donc c'est un défi immense et important pour notre prospérité économique à terme, ça c'est sûr.
Merci Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous procurer le livre « Un robot dans la voiture » d'Erwan Tison, directeur des études à l'Institut Sapiens, avec l'avocat Guillaume Tatouex chez Emma Édition. Merci aussi à Anne Fetz, que vous pouvez retrouver tous les jours dans les pages des Échos ou sur le site leséchos.fr avec Lionel Steinman pour l'actualité de l'automobile. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Le podcast quotidien des Échos est réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.